en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Aujourd'hui, dans l'émission En habit vert, Jean-Christophe Ruffin revient pour vous sur l'histoire de sa vie, son parcours, ses écrits, son œuvre. L'actuel Benjamin de l'Académie française, romancier à succès, élu en juin 2008 au fauteuil d'Henri Troya, a prononcé le 26 octobre 2010, vient de prononcer, c'était il n'y a pas très longtemps, au nom de l'Académie française, le fameux discours de rentrée des cinq académies, placé cette année sous le thème du doute. L'écrivain, dont on sait qu'il a parcouru la planète, a parlé ce jour-là de la France, de sa position dans le monde et de sa culture. Un discours ancré dans la globalisation. Une belle occasion pour nous de lui demander en retour quel usage a-t-il fait pour lui-même de ce qu'il juge être l'une des plus belles qualités de la culture française, le doute, force ou faiblesse de la culture française. Alors, à n'en pas douter, l'écriture accompagne Jean-Christophe Ruffin, ancien ambassadeur, ancien neurologue, ancien expert auprès des cabinets ministériels et médecin aussi sur le terrain de l'humanitaire. L'homme semble aimer s'inscrire dans son temps, par les mots et par l'action. Jean-Christophe Ruffin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous qui semblez osciller entre le terrain, l'action et l'écriture, êtes-vous tenté par la politique ?
Non, pas du tout. La politique est tentée par moi de temps en temps, c'est-à-dire que j'ai des hommes politiques qui m'ont proposé de travailler avec eux. En général, je n'en ai accepté que quand ça me paraissait un défi à relever, voire une provocation. Quand je suis allé au ministère de la Défense m'occuper des opérations de maintien de la paix, c'était un pied de nez fait à mes petits camarades de l'humanitaire qui considéraient ça comme passé chez le diable.
C'était en 93,
oui, 93.
Au ministère de la Défense.
Voilà, et du temps de François Léotard. Ensuite, quand le président et ministre des Affaires étrangères, Kouchner, m'ont proposé d'être ambassadeur de France au Sénégal, ça aussi, c'était un métier que je n'avais jamais fait dans un pays difficile, dans la mesure où c'est une ancienne colonie française. C'est très compliqué de représenter la France dans un pays avec tant de liens avec nous. Et ça aussi, j'ai accepté par défi et par plaisir. Puis il y a toujours l'idée du romancier d'être la petite souris, c'est-à-dire d'avoir un balcon sur le monde, de pouvoir avoir un autre angle de vue sur les choses, d'autres expériences, d'autres histoires. Et ça aussi, ça m'attire. Donc, dans cette mesure-là, des fonctions qui sont liées à la politique ont pu m'attirer, mais je n'ai jamais sollicité un mandat, et je ne le ferai pas. Et je n'ai jamais non plus exercé de fonction proprement militante, si vous voulez. Je n'ai jamais appartenu à un groupe ou à un autre.
Il y a une appartenance politique ? Vous n'êtes pas clairement étiqueté ?
Non, parce que si vous voulez, je ne me suis jamais inscrit vraiment dans la politique française. Moi, mon sujet, c'était la politique, les questions internationales. Donc en France, il se trouve que j'ai rejoint vraiment par hasard à l'époque, parce qu'au fond, j'étais... Bon, c'est vrai que j'ai horreur des extrêmes, hein, ça c'est clair. J'ai horreur des extrêmes, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche. Pour différentes raisons, d'abord parce que l'histoire de ma famille, enfin le fait qu'on a payé un assez lourd tribut aux utopies du XXe siècle, hein, de toutes parts, que ce soit celle du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale, ou que ce soit l'utopie soviétique. Donc je n'ai pas, si vous voulez, de complaisance particulière pour les extrêmes, et j'ai toujours une grande méfiance à l'égard des utopies en acte, parce que je sais ce qu'elles ont coûté. Voilà, donc je suis plutôt quelqu'un, disons, de républicain, des parages du centre, d'une certaine forme de modération. Voilà, maintenant après, c'est un peu par hasard que j'ai travaillé avec Claude Malhuret d'abord, secrétaire d'État aux droits de l'homme. Bon, il avait été président de Médecins sans frontières, quand il a été là-bas, il m'a appelé. Et puis, de fil en aiguille, j'ai connu donc François Léotard par ce biais, etc. Mais voilà, bon, c'est Bernard Kouchner qui m'a nommé ambassadeur, c'est le président Sarkozy qui était à l'époque, à ce moment-là, et qui est toujours évidemment président. Bon, je ne suis pas du tout un militant.
Politique. Est-ce que vous souhaiteriez exercer des responsabilités de conseiller à nouveau dans un ministère ?
Bon, pas du tout.
Pas du tout, hein ?
Pas du tout, parce que j'ai fait ça. Ça aussi, ça m'a intéressé, parce que je trouvais qu'il fallait prendre aussi, comme disait Raymond Aron, à penser du côté du pouvoir. C'est-à-dire pas être uniquement, comme le sont les ONG, un petit peu dans le IACA, Faucon, etc. Bon, très bien. Il faut aussi voir ce que c'est que le pouvoir, comment ça marche, ses limitations, etc. J'ai toujours, à la fois dans mes romans et évidemment dans ma vie, aimé cette observation qui traverse justement les couches de différentes strates de la société, hein, depuis la base, vraiment, quand j'étais médecin. J'étais vraiment au contact de la réalité sociale la plus basique, voire et souvent la plus dramatique. Et puis en même temps, d'aller voir un peu dans les dorures comment ça se passe. Quand j'étais au ministère de la Défense, quand j'étais conseiller du ministre, J'avais un bureau avec un lustre et tout, des moulures, enfin les trucs. Et puis j'en avais un peu assez de ce caractère comme ça, un peu virtuel, si vous voulez. Et donc j'étais voir Xavier Emmanuelli, qui à l'époque s'occupait des SDF à l'hôpital de Nanterre, et je lui demandais si je pouvais faire une vacation dans la semaine, c'est-à-dire faire une consultation dans la semaine. Et donc ça me faisait du bien de garder ce contact, si vous voulez. Alors une fois par semaine, bon, c'était pas beaucoup, mais je pouvais pas le faire plus, mais j'allais avec un chauffeur à l'hôpital de Nanterre, donc je quittais l'hôtel de Brienne avec ses lustres, puis j'arrivais à l'hôpital de Nanterre. Comme je n'osais pas arriver avec mon chauffeur, je me faisais déposer à deux pâtés de maison, puis je finissais à pied. Mais ça me faisait du bien. Ce n'était pas du tout pour... personne ne le savait, je n'ai pas dit. Mais c'est, voilà, parce que je trouvais que c'était bien. Et
c'était important de garder un pied dans la
voilà,
réalité.
Mais parce qu'il faut voir les choses sous tous leurs angles. Et en tant que romancier, c'est ça que j'aime aussi. C'est quand on peut, dans une réalité, la montrer de ses points de vue différents, et en explosant complètement les obstacles, les limites, etc., et en voyant la même chose, la même situation, avec ses points de vue différents. Ce n'est pas le point de vue de Dieu, ce n'est pas le point de vue qui surplombe tout, du romancier tout-puissant. C'est la capacité de se fondre dans des postures, prendre des positions différentes pour observer la même réalité.
Sur le pouvoir, qu'est-ce que vous avez appris sur le pouvoir politique ?
Sur le pouvoir, en tout cas en Europe et en France en particulier, j'ai surtout appris la fragilité de ce pouvoir. C'est-à-dire que j'ai surtout appris qu'il n'y avait pas de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a surtout des gens qui gèrent une impuissance chronique. Puissance parce qu'ils manquent de moyens, parce que tous les choix qu'ils ont sont mauvais, parce que pratiquement les décisions sont prises sans eux. Donc finalement, il y a une extraordinaire... Je pense que tout le monde devrait... Tous les gens qui prétendent écrire sur une situation politique devraient avoir fait cette expérience. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir la différence entre le vécu interne d'une décision, par exemple, comment elle a été prise, pourquoi elle a été prise, par qui elle a été prise, et les spéculations, les commentaires qui sont faits par les journalistes qui disent « Oui, mais il a fait ça parce qu'il voudrait que machin fasse ça et que demain, etc. » Et vous dites, mais mon pauvre ami, il a fait ça surtout parce que, je sais pas, parce qu'il était 15h30, qu'il fallait qu'il parte à un truc, qu'il n'avait pas le temps. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il y a souvent, je ne dis pas dans toutes les décisions, mais dans beaucoup de décisions à caractère lourd, public, une improvisation.
Qu'on ne mesure pas, qu'on ne voit pas.
Inimaginable, oui. Et quand il n'y a pas d'improvisation, il y a souvent une grande fragilité. C'est-à-dire que les pouvoirs démocratiques en particulier, ils sont faibles. Et les pouvoirs totalitaires aussi, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai vécu des situations, par exemple en Pologne. J'étais en Pologne au moment de ce qu'on appelait l'état de guerre, quand Solidarność a été brutalement réprimé par Jaruzelski, qui a mis ses chars partout, etc.
Vous y étiez à quel titre à cette époque-là ?
J'y étais parce que, en fait, j'y étais allé beaucoup du temps de Solidarność pour des ONG, etc. Et puis quand le pays a été fermé, j'y suis entré pour aller apporter de l'aide. Et en même temps, il y avait des journalistes qui étaient joints à nous. Enfin, c'était
la grande histoire, là.
Oui, c'était surtout une manière d'aller voir des gens qu'on connaissait bien, si vous voulez, et qui, tout d'un coup, se retrouvaient coupés de tout. C'était dramatique, quand ils n'étaient pas emprisonnés. Et tout. On avait obtenu une condition un peu rocambolesque, un visa qui nous permettait aussi de passer d'une ville à l'autre avec notre petit camion, là. Et bon, ce qui est fascinant, si vous voulez, c'est de voir... Au fond, le pouvoir polonais de l'époque, qui paraissait inexpugnable, quoi. Ce pouvoir communiste de l'époque, c'était l'incarnation même de la force, mais finalement, il est tombé. Et moi, j'ai connu beaucoup, beaucoup de ces dictatures qui sont tombées aujourd'hui. Donc, cette fragilité, si vous voulez, des pouvoirs les plus forts, comme des pouvoirs alors, dont on sait qu'ils ne le sont pas, comme les pouvoirs démocratiques, ça, c'est vraiment une expérience qu'il faut avoir faite une fois pour se rendre compte à quel point le pouvoir n'en est pas un, tout au moins. Et la complexité de ce qu'on appelle le pouvoir. Quoi.
Alors, quel est le pouvoir de la diplomatie ?
Oh ben, oui, très très faible. Alors ça, c'est... Si vous voulez, les diplomates sont des gens qui ont perdu beaucoup de territoire, si j'ose dire. Bon, par exemple, en Europe, la construction européenne fait que les choses se passent à Bruxelles, qu'elles se passent directement entre chefs d'État, etc. Donc déjà, tous les postes européens sont réduits, sont vidés de leur substance, d'une certaine manière. Les postes lointains sont souvent assez vides aussi parce qu'ils sont loin et que ça n'intéresse personne. Et puis, il reste effectivement des postes sensibles, comme celui que j'ai occupé en Afrique, où là, il y a des intérêts. Une certaine liberté quand même, parce qu'on est quand même loin, il faut réagir vite et on a une capacité d'action. Je ne sais pas si on peut appeler ça du pouvoir, parce qu'en définitive, si vous voulez, moi, tout ce que j'ai défendu comme conviction en étant là-bas a fini par, de toute manière, être contredit par Paris. Donc, si vous voulez, un diplomate ne résiste pas à ceux qui l'ont nommé. Je veux dire, donc voilà, par définition, son pouvoir est très limité.
Qu'est-ce que vous pensez de la dernière année des institutions européennes, le fameux Service européen pour l'action extérieure, le SEAE, des mots qui claquent, qui rappellent un peu par le nom même Action contre la faim, que vous avez fondé, présidé. Donc, que signifie pour vous ce primat donné à l'action en diplomatie là ? Quelle est votre opinion, simplement ? Mais c'est quelque chose de tout nouveau, je trouve.
Oui, mais ça sanctionne, si vous voulez, une évolution, couronne une évolution qui ne date pas d'hier. Dans les postes aujourd'hui, vous avez souvent une disproportion, bon, pas au Sénégal, parce que le Sénégal, la France reste très présente, mais dans pas mal de postes, vous avez une délégation de l'Union européenne qui est plus puissante que les ambassades nationales, les ambassades bilatérales qui sont là, notamment dans beaucoup de pays africains où les gros bataillons financièrement de la coopération proviennent d'Europe et non pas des pays individuellement, si vous voulez. Donc, cette évolution d'une montée en puissance de la présence européenne, avec ses propres institutions, ses propres représentants, le chef de délégation maintenant s'appelle ambassadeur dans ces pays-là, enfin partout. Et donc, ça, c'était déjà une évolution qui existait. Alors, le fait qu'il y ait un service extérieur commun maintenant...
Est-ce que ça va changer quelque chose,
à votre avis ? Oui, alors ça va changer quelque chose parce que ça va donner un contenu politique directement. Et un recrutement aussi qui sera un recrutement moins technocratique. Parce qu'à l'heure actuelle, le recrutement de la Commission, si vous voulez, ce sont des techniciens, ce sont des gens qui proviennent de la Commission, donc ont souvent un long parcours à travers les différents services de la Commission, qui sont nommés ambassadeurs de l'Union européenne. Aujourd'hui, les ambassadeurs de l'Union européenne seront pour partie des gens qui viendront de la Commission, mais pour partie des gens qui sont des diplomates des pays membres. Donc ça va donner un caractère un petit peu plus politique et professionnel surtout à ça. Mais moi, c'est pas là que je vois la grosse différence. La grosse différence, c'est surtout que ça va nous obliger à avoir des pratiques communes. Et dans des pays comme les pays africains, si vous voulez, ça veut dire que tous les réseaux, la France-Afrique, etc., dont j'ai parlé, le jour, qui n'est pas pour demain, mais le jour où on aura un service extérieur commun, ça sera fini. Ça sera fini parce que, si vous voulez, ces réseaux ne fonctionnent et ne prospèrent que parce qu'ils ont, avec la France, des relations privilégiées qui leur permettent de faire des choses que les autres pays n'accepteraient jamais. Et moi, j'ai joué un jeu très européen au Sénégal. Je m'entendais très bien avec mes collègues européens. J'ai tout fait pour qu'on puisse agir ensemble. Et ils l'appréciaient. Et c'est une relation tout à fait équilibrée. Ils ne supportaient pas. Chaque fois qu'il y avait la manifestation d'un de ces réseaux, justement, d'une de ces mauvaises habitudes de la France, ben ils sont très critiques. Et ils ont raison.
Vous pensez revenir un jour dans le circuit du ministère des Affaires étrangères ou même pour l'Europe ?
Non, je ne pense pas.
Non,
parce que
vous
si
êtes
vous
vacciné
voulez, j'ai été... Non, c'est parce que j'ai mordu un peu fort en partant. Et puis, vous savez, les diplomates n'aiment pas les vagues. Ils ont toujours peur d'être éclaboussés. Moi, j'ai dit des choses que tout le monde pense, au Quai d'Orsay, en prenant d'une certaine manière la défense de ce corps que j'aime, j'ai beaucoup d'amis, contre les empiétements dont il est victime, qui font que son pouvoir s'est amoindri au fil du temps et que la position d'ambassadeur est souvent intenable. Bon, donc j'ai pris des positions pour les défendre. Mais les diplomates vous en veulent toujours, même si c'est pour les défendre, quand vous parlez. Voilà. Donc, je pense qu'ils m'en sauront gré, peut-être, dans leur fort intérieur, mais que ma carrière dans ce domaine s'arrêtera là. Mais il n'y a pas que ça, vous savez, dans la vie. Il n'y a pas que ça. D'abord parce que moi, depuis que je suis tout petit, je ne me dis pas « tu vas être ambassadeur, ça m'est égal ». Et en plus, c'était une expérience de plus. Mais au fond, sur le même sujet qui m'a toujours intéressé, c'est-à-dire ces rapports Nord-Sud, ces rapports avec les pays du Sud, en particulier l'Afrique, il y a bien des positions possibles. Moi, j'ai connu celle des ONG, j'ai connu celle des cabinets ministériels, j'ai connu celle de l'ambassadeur. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc, moi, je n'ai aucune inquiétude et je suis à la fois très heureux d'avoir eu cette expérience, de l'avoir menée à bien et de l'avoir fait le mieux possible, je crois, bien. Et en même temps, je suis content qu'elle soit terminée.
Quel bilan faites-vous de l'action humanitaire, puisque vous avez été un des pionniers à faire de la médecine humanitaire dans les années 80? Avec le recul, à quel poids ont acquis les organisations non gouvernementales et toute cette... J'allais dire nébuleuse humanitaire, le terme n'est pas très joli. Certains parlent d'économie humanitaire, de morale humanitaire. Qu'est-ce que vous pensez ?
Si vous voulez,
c'est une histoire de votre vie aussi. Enfin,
oui,
c'est une histoire d'une grande partie de votre vie.
Oui, et puis ma vie commence à être relativement longue. Donc finalement, même si je suis le Benjamin de l'Académie, comme vous l'avez gentiment dit, voilà, je ne suis quand même pas un perdreau de l'année. Et parfois même, je suis plus proche du dinosaure que du perdreau. C'est-à-dire que je commence à avoir vu tout. C'est-à-dire, j'ai vu ces ONG naître.
Alors, 30 ans d'ONG, voilà. Ça fait
alors,
quoi
pas Médecins Sans Frontières, parce que ça, c'était un petit peu avant. Ils sont apparus en 71, moi, j'y suis arrivé en 77. Mais Action contre la faim, par exemple, Solidarité, etc., tout, Première Urgence, toutes ces ONG, je les ai vues naître. Donc, si vous voulez, j'ai vu ce que c'était au début. Au début, c'était rien. Rien. C'est-à-dire que c'était dans un espace à peu près grand comme deux fois votre studio, des gens qui passaient une heure par jour, quand ce n'était pas par semaine, pour essayer de bricoler un peu quelque chose. Donc, partant de là, pour arriver là où elles sont aujourd'hui, c'est un extraordinaire succès. Les ONG aujourd'hui ont beaucoup de moyens, beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de présence, beaucoup de volontaires. Bon, c'est un extraordinaire succès. Mais en même temps, ce succès, il s'est fait toujours, toujours, toujours dans les interrogations. Et on pourrait dire dans la douleur, d'une certaine façon, parce que ces ONG, pourquoi elles ont réussi ? C'est parce qu'elles étaient dans l'innovation, toujours. Elles ont apporté des nouvelles idées par rapport à ce qu'était autrefois la Croix-Rouge, etc. Elles se situaient en rupture, etc. Et donc, elles sont aujourd'hui encore toujours mises en question.
Force du doute.
Du doute, voilà, du doute. Et puis, si vous voulez, il n'y a pas de reproductibilité stricte des situations. On peut quand même trouver une sorte de... On peut avoir un enseignement, on peut avoir une mémoire, on peut se souvenir, même créer des correspondances. Moi, j'ai été un des pionniers là-dedans, parce que bizarrement, enfin, j'ai commencé dans l'humanitaire, il y avait très peu de mémoire. C'est-à-dire que chaque catastrophe chassait l'autre, et puis on recommençait à zéro, on faisait les mêmes erreurs, etc. Et j'étais un des premiers à me poser les questions, justement, de savoir, de reprendre un peu l'expérience passée pour essayer d'en dégager quelques principes, quelques pièges aussi. Donc, mon premier livre s'appelait « Le piège humanitaire » à cause de ça. En réalité, on aurait plutôt dit « Les pièges de l'humanitaire ». Mais finalement, bon, même si on arrive à capitaliser un petit peu cet enseignement des catastrophes, elles sont quand même toujours nouvelles. C'est-à-dire que ce qui vous arrive est toujours inattendu, est toujours différent. On a bien vu, par exemple, les pièges dans lesquels certains sont tombés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, la Croix-Rouge a eu une action extraordinaire, mais elle s'est trompée de guerre. La Croix-Rouge était pendant la guerre de 14, mais c'était la guerre de 40. Et donc, ils sont passés complètement à côté de ce phénomène très particulier, très nouveau, qui était l'extermination massive dans les camps de concentration.
Vous pensez qu'aujourd'hui, on passe à côté de quelque chose comme ça, d'aussi majeur ?
Alors, non, mais aujourd'hui, enfin, je ne pense pas, peut-être, je ne suis pas conscient, je ne sais pas, mais je crois qu'aujourd'hui, non, on n'a peut-être pas cette...
Ce travers,
mais il y a autre chose aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est la question du risque. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'engagement a toujours comporté des risques. Mais ces risques étaient quand même très mesurés, très calculés et au fond très faibles. Vous pouviez, du temps de la guerre froide, je ne suis pas nostalgique de la guerre froide, mais c'est vrai que la guerre froide était un monde, créait un monde assez ordonné. Et donc vous alliez d'un côté, vous alliez d'un autre. Bon, c'était assez sûr, c'est-à-dire vous saviez à peu près qui allait faire quoi, qui voulait quoi, etc. Aujourd'hui, il y a une beaucoup plus grande confusion. Et surtout, du temps de la guerre froide, chacun voulait être le bon élève en matière de droits de l'homme. Donc, que ce soit les gens qui étaient plutôt pro-soviétiques ou les autres de l'autre côté, chacun voulait montrer qu'il était très respectueux des droits de l'homme, de l'humanitaire, qu'il traitait bien les prisonniers, qu'il traitait bien les volontaires de l'humanitaire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, il y a une volonté, si vous voulez, de se démarquer de l'Occident, en quelque sorte, dans beaucoup d'endroits du monde, notamment des islamistes, mais pas seulement. Hein. Et l'Occident, ben, au cœur de l'Occident, il y a les droits de l'homme. Et donc, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, les humanitaires sont des cibles parce qu'ils sont vécus comme, en quelque sorte, les représentants de l'Occident en acte. Et il faut bien dire qu'on a prêté le flanc à ça, notamment avec toute la phraséologie autour du droit d'ingérence, etc. Les humanitaires ont été mis en présence des militaires. Il y a eu une espèce de mélange des genres à un moment donné. Et pour les populations locales, si vous voulez, ils ne font pas tellement la différence hein, entre un militaire et un humanitaire. Beaucoup de gens, j'ai souvenir comme ça en Albanie, je me rappelle, un jour il y avait une conférence de presse faite par les gens de l'OTAN, et il y avait deux militaires américains en treillis, c'était les mêmes, hein, ils étaient en treillis, c'était pareil. Mais il y en a un qui a dit, voilà, je suis le représentant de la branche militaire de l'OTAN. Et puis, il a fait son discours. Et puis, l'autre, après, a dit « Moi, je suis le représentant de la branche humanitaire de l'OTAN. » Mais il avait la même tronche. Et, si vous voulez, fallait vraiment être très fort pour distinguer l'un de l'autre. Et c'est vrai que cette contamination par les militaires, par les enjeux politiques, a beaucoup nuit aux humanitaires et qu'aujourd'hui, ils en paient le prix.
Comment peuvent-ils s'en sortir ? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec des organisations
beaucoup,
humanitaires ?
Oui, tout à fait.
Toujours ? Vous êtes président d'honneur ?
Voilà,
vous...
oui, je suis président d'honneur, mais enfin ça c'est...
Mais vous avez envie de reprendre
Oui, ils me l'ont proposé. Ils me l'ont proposé, mais bon, d'abord, un peu place aux jeunes et tout. Et puis, si vous voulez, oui, mais pas forcément pour diriger des associations, parce que je l'ai fait. À la limite, aujourd'hui, je partirais plus volontiers comme volontaire à la base, mais que, au fond, la bureaucratie humanitaire, aujourd'hui, j'en ai un petit peu assez. Bon, on verra, mais en tout cas, j'ai toujours gardé une sympathie pour ce monde-là. Et je trouve qu'ils sont courageux et que c'est difficile et qu'en plus, aujourd'hui, ils sont un petit peu discrédités, non pas par eux, mais par eux-mêmes, mais si vous voulez, parce qu'il y a une sorte de suspicion sur leur action, etc. Donc, c'est une période difficile.
Vous avez entendu parler des travaux de Didier Fassin ?
Oui, l'anthropologue de la santé. Là,
oui. Mais... Alors, toute cette expérience en tant que médecin dans l'humanitaire, vous la racontez dans... D'abord, vous en servez pour certains de vos romans, dans Asmara et les causes perdues. Vous avez parlé de l'essai du piège humanitaire. Hein, et vous en parlez également dans Un léopard sur le garrot, assez longuement, où là, on voit toute la partie du médecin qui ne sommeille pas en vous, mais qui a été très active. Et puis, toute cette histoire est bien largement traitée. Quelles sont vos plus grandes désillusions, si vous en avez, puisque vous êtes apparemment d'un optimisme convaincu. Mais enfin bon, probablement vous avez quand même eu quelques désillusions sur le sujet, sur l'humanitaire, vous en avez eu ?
Oui, c'est-à-dire que j'ai jamais eu d'illusions, donc j'ai jamais eu de désillusions. C'est-à-dire que je suis toujours convaincu, si vous voulez, que l'humanitaire était quelque chose de nécessaire, mais pas de suffisant. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, même si la Croix-Rouge s'est trompée, même si elle a fait beaucoup d'erreurs, bon, mon grand-père, qui était prisonnier, communiquait à l'extérieur avec les paquets, les colis, les messages de la Croix-Rouge. Bon, je ne connais pas, si vous voulez, de victimes qui, dans la détresse, vous expliquent qu'il faut la laisser crever. Je veux dire, on a besoin de porter secours, c'est une fonction essentielle, etc. Mais on a assisté pendant quelques années, enfin, notamment dans toute la grande période de gloire des French Doctors, un investissement massif et excessif de cette activité à laquelle on a prêté, si vous voulez, toutes les vertus, toutes les comme si l'humanitaire pouvait faire la paix, comme si l'humanitaire pouvait rééquilibrer les rapports internationaux, comme si l'humanitaire était susceptible de corriger toutes les injustices. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et donc, cet excès, si vous voulez, d'espérance ou d'attente ou de charge qui a été mise sur notre dos, évidemment, produit une désillusion. Mais moi, j'en ai pas vraiment. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a quelque chose qui a été, à un moment donné, une crise, c'était la question de la sécurité, encore une fois, de la sécurité, mais au sens où on a vécu dans les années 90, notamment, pas mal de situations dans lesquelles l'insécurité était telle qu'on ne pouvait plus travailler. Et donc là, on était aux limites du système. Qu'est-ce qu'on fait quand vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez même plus entrer ? Et c'est vrai que, par exemple, en Bosnie, d'une certaine façon, il a fallu en appeler à la force pour régler les problèmes. Parce que, justement, l'humanitaire seul n'avait aucune chance d'y parvenir. Alors, c'est là où il y a eu toute cette confusion, c'est-à-dire qu'on appelait à la force, mais finalement, à la place, on avait des militaires qui jouaient aux humanitaires. Ça n'allait pas. Ce qu'on demandait et ce qu'on a obtenu, c'est finalement qu'il y ait un règlement militaire et politique de la situation. Voilà, mais ça a été une prise de conscience. Mais nous, on en était conscients depuis longtemps, mais ça a été une prise de conscience générale, c'est-à-dire l'humanitaire n'est pas la solution à tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est inutile.
Vous pensez l'accompagner comment, cette mission humanitaire, j'allais dire personnelle, dans votre parcours à vous, à l'avenir ?
Je ne sais pas. Mais je n'ai jamais su, vous savez... Enfin, je peux vous parler du passé parce qu'il est là et que les choses sont faites, mais je n'ai jamais fait de plan de carrière, moi, jamais. Donc, les choses m'ont été proposées ou j'ai suscité comme ça des occasions, mais je n'ai jamais fait de plan de carrière, jamais. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire... Moi, la seule chose qui m'appartienne vraiment de faire, c'est de rester disponible pour l'inconnu, pour des choses qui vont en venir, pour ce qui peut se produire, ce qui peut me passionner, ce qui peut être nécessaire. Voilà. Mais je n'ai pas de plan, encore une fois, j'en sais rien.
Vous pensez que l'écriture va occuper une plus grande place dans votre vie ou...
Elle a
toujours été là. Excusez-moi
oui. Non, mais c'est une bonne question. C'est-à-dire que, est-ce que je vais devenir unijambiste ? Est-ce que je vais marcher sur une jambe ? Uniquement la littérature ou en laissant l'autre finalement... j'ai besoin des deux. J'ai besoin de marcher, en effet, sur les deux jambes, d'avoir une double activité
comme,
à la fois.
Comme Pierre-Jean Rémy à l'Académie, que vous avez connu d'ailleurs.
Que j'ai bien connu, bien sûr, et que j'aimais énormément. Ouais. J'aimais énormément, et dont j'ai beaucoup, beaucoup regretté la disparition. Mais bon, oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a... Mais ce n'est pas particulier à moi. Enfin, je pense que quand on fait en particulier ce genre de littérature, avec beaucoup de personnages, avec beaucoup de descriptions, avec beaucoup de vie, finalement, Il faut soi-même vivre, vous ne pouvez pas... Donc, non. Mais, bon, après, la question, c'est, est-ce que... Par exemple, je viens de signer un contrat, par exemple, avec un journal qui est Match, pour ne pas le citer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de gens qui renouent avec la tradition des écrivains du front, si je puis dire. Des gens qui vont en Afghanistan, au Nigeria, machin, et qui font des papiers comme ça, de terrain. Je vais voir si ça me plaît, et si ça leur plaît surtout, et si ça plaît aux lecteurs encore plus. Mais moi, voilà, ça m'intéresse parce que, si vous voulez, c'est une manière, au fond, de faire les deux, c'est-à-dire à la fois d'écrire, tout en conservant cette expérience...
Du voyage, de l'expérience.
Vous voyez, et puis surtout des yeux ouverts, quoi, de la rencontre, parce que, si vous voulez, si vous n'êtes pas... Encore une fois, si vous n'êtes pas nourri par l'expérience, ben vous n'avez rien à dire.
Bon, l'écriture vous accompagne, vous voulez conserver un pied dans la réalité, un pied dans une réalité professionnelle, quelle qu'elle soit, peut-être celle du journalisme, là. Je voudrais revenir à la littérature. En tant qu'écrivain, vous aimez beaucoup raconter. Tout à l'heure, dans l'autre interview, d'un coup, c'est le conteur qu'on a entendu. Donc, vous aimez dérouler les intrigues, vous êtes plus attentif, semble-t-il, à cette histoire, à cette façon de raconter, plutôt qu'à la forme.
Oui,
excusez-moi de dire
non,
ça comme ça.
Fait.
Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la langue, hein, loin de là. C'est pas
tout,
ça.
J'ai...
Mais ça paraît moins important à vos yeux. Qu'est-ce qui compte, en fait, pour vous ?
Non, mais voilà. Moi, je suis ce que les anglo-saxons appellent un storyteller, un raconteur d'histoire. C'est ça que j'aime. Bon, quand vous racontez une histoire... Si vous prenez vos enfants, vos petits-enfants sur les genoux et vous leur racontez une histoire, l'essentiel, c'est surtout qu'ils comprennent l'histoire, que le vocabulaire soit adapté et qu'ils aient envie que ça continue. Parce que c'est Scheherazade, hein, le raconteur d'histoire, son modèle, c'est Scheherazade. Et sinon, on vous coupe la tête. Bon, en sachant que nous, on ne nous coupe pas la tête, mais on n'achète pas nos livres, ou on les referme, ou on passe à autre chose, ou on zappe, enfin, à la télévision, etc. Donc, le raconteur d'histoire, il y a une efficacité de l'écriture qui est... nécessaire. Dans un roman, il faut que l'intrigue soit suffisamment forte pour qu'elle transporte, je dirais, les idées. C'est un peu comme un camion, si vous voulez, si le moteur n'est pas assez puissant, vous ne pouvez pas mettre des choses dedans, il va caler. Je veux dire, bon, si vous avez des romans à thèse, c'est comme ça, ou même certains romans historiques, c'est comme ça.
Vous aimez beaucoup l'histoire ?
J'aime bien l'histoire, mais j'aime... Non, d'ailleurs, non. En fait, j'aime bien dès que les choses se déroulent quelque part.
Oui.
J'aime pas qu'ils flottent dans... Voilà, on arrive dans une ville inconnue, machin, bon. Non, je veux que ça soit un lieu, une date, un endroit, bon.
Même dans la science-fiction, même dans Globalia, c'est...
Voilà, c'est référencé, parce qu'il faut, parce qu'on est comme ça, parce que, bon, même...
Ça commence par une
promenade
de montagne.
En 2050, on continuera à manger du saucisson, j'espère. Enfin. Donc, si vous voulez, il faut saisir tout ça. Mais avec un moteur, avec un moteur. Et le moteur, il est vraiment prédominant. Et donc... j'essaie de, surtout dans les romans d'espionnage, mais même dans les romans d'aventure, j'essaie de tendre un petit peu le ressort pour que, voilà, le lecteur... Alors après, bon, j'essaie d'écrire convenablement, mais je ne serai pas jugé, enfin je serai peut-être jugé, mais à ce moment-là je serai condamné sur la forme, parce que ça n'est pas mon... J'ai un grand respect pour la langue française, j'essaie d'écrire les choses tout à fait convenablement, mais je ne serai pas... je ne vais pas révolutionner le roman dans sa structure, ça c'est certain, dans sa forme.
Ce n'est pas votre ambition,
ce n'est
pas là que ça se passe pour vous.
Et je serais même très triste d'y arriver, parce que, je veux dire, ce n'est pas du tout le but, mais enfin, il n'y a aucun risque.
Pour terminer, comment l'écriture vous a-t-elle aidé à devenir libre ?
C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu ça longtemps comme une malédiction, c'est-à-dire que j'étais parvenu à quelque chose en faisant des études, en passant des concours, j'avais un métier dans les meilleures conditions possibles.
Vous avez été médecin ?
Médecin, j'étais programmé pour être professeur de médecine, internat très jeune, etc., à Paris et tout. Bon. Mais ce n'est pas ça que je voulais. Alors, qu'est-ce qui vous arrive quand vous avez un superbe gâteau, là, devant vous, au chocolat, mais vous voulez manger des huîtres ? Donc, voilà. Et au fond, si vous voulez, mes huîtres à moi, c'était... Justement, bon, l'écriture de cette manière, mais plus que ça, c'était cette écriture justement liée à la vie, à une forme d'expérience de la vie beaucoup plus complète. Donc, pour arriver à ça, c'est-à-dire pour pouvoir écrire, pour pouvoir vivre de ça, c'est vrai que j'étais obligé de faire des choix, qui à un certain moment ont été des choix dangereux d'ailleurs, parce que j'ai vraiment lâché des choses. J'étais fonctionnaire, j'ai démissionné, je suis parti, j'ai pris des risques. En France, un fonctionnaire qui démissionne, vous avez déjà vu ça ? Et donc, c'est quand même... voilà, bon, mais pourquoi ? Parce que je voulais ça. Et au fond, je voulais ça, et c'est très difficile de se dire, tant que vous n'avez pas réussi à publier, etc., que... Vous vous rendez compte, c'est des choix extrêmement difficiles, parce que vous lâchez vraiment la proie pour l'ombre, c'est exactement ça. Et donc, si j'ai fait ce parcours un peu de rupture, donc de liberté, si je vous comprends bien, c'est au nom de la littérature, c'est au nom de cette liberté de l'écriture. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu, en effet, de rupture en rupture, finir par arriver à ce que je voulais.
Diriez-vous que votre vie est un roman ?
Non, parce que, ou alors un mauvais, parce qu'il n'est pas... Non, parce que si vous voulez, il y a dans un roman quelque chose de plus... Il y a justement ce moteur.
Alors, elle est où, la vraie vie ?
La vraie vie ? Elle est dans les deux, c'est ça le problème. C'est que moi, je ne peux pas... Mais le roman, enfin, si vous voulez, une vie romanesque, c'est une vie tendue vers quelque chose, je dirais. Alors que moi, j'ai beaucoup plus une vie qui s'est, à un moment donné, libérée et qui flotte. Qui flotte dans un univers très particulier, qui est celui de l'imprévu. Voilà. Et finalement, l'Académie française, curieusement là-dedans, est une sorte de port au sens de port de...
D'attache.
D'attache, voilà, dans lequel le hasard, il faut bien dire, et l'honneur qui m'a été fait par mes confrères m'a amené. Et finalement, je suis là, dans, peut-être pour la première fois de ma vie, dans un endroit dont je puisse me dire que j'y serai jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Parce que ça ne s'est jamais produit jusqu'à présent. Donc, je suis très content.
C'est la porte ouverte sur de nouvelles pages blanches.
Certainement, certainement. Des pages blanches, habits verts, tout ce que vous voudrez. Mais pour que la page blanche existe, il faut d'abord qu'il y ait de la vie. Voilà.
Merci Jean-Christophe Ruffin d'être venu nous voir.
Je vous en prie.